Chapitre 3. La dédicace. Le jour avait baissé rapidement pendant la conversation de la mère et du fils. Une servante âgée entra sans être remarquée et alluma les lampes posées sur des supports de bronze ou de marbre, puis elle se retira. Une lumière brillante vint éclairer le groupe gracieux formé par la mère et l'enfant qui restaient silencieux, car la sainte matrone Lucina avait répondu à la dernière question de Pancratius en déposant sur son front un éloquent baiser. Ce n'était pas seulement une émotion maternelle qui agitait son cœur, elle ne ressentait pas simplement le bonheur d'une mère qui, ayant inculqué à l'âme de son fils des sentiments élevés et des principes sévères, le voit porter ses sentiments à leur expression la plus haute. Non, elle n'était pas pénétrée de la joie d'avoir un fils dont la vertu était si héroïque dans un âge si tendre. Quoiqu'à plus juste titre que la mère des Gracques montrant, aux matrones de l'ancienne République étonnée, ses fils comme ses plus précieux bijoux, la mère chrétienne aurait pu se parer devant l'Église du fils qu'elle avait enfanté à la foi comme à la vie. Son émotion était plus profonde encore, ses sentiments étaient plus sublimes. Cet instant, elle l'attendait depuis de nombreuses années. Pour rater ce jour, elle avait adressé au ciel ses ferventes prières, dont le cœur d'une mère a seul le secret. Il y a des mères pieuses qui vouent leurs fils, encore au berceau, aux nobles et saintes fonctions du sacerdoce. Elle prie alors et demande que son enfance bénie se passe sur le parvis du temple et que le jeune et pur lévite monte plus tard comme prêtre à l'autel du Très-Haut. La mère s'efforce d'éveiller de saintes aspirations dans l'âme du fils et porte toutes ses pensées vers le sanctuaire du Dieu vivant. Si cet enfant est un fils unique, cette offrande à Dieu de tout ce qu'on a de plus cher au monde est regardée comme un acte d'héroïsme maternel. Que pourrions-nous dire alors des mères des anciens âges, des Félicités, des Saint Phorosa ou de la mère héroïque des Maccabées qui offraient leurs enfants sans en réserver un seul et les offraient pour devenir non seulement des prêtres, mais des victimes immolées à l'amour de Dieu. C'était une pensée de cette nature qui remplissait l'âme de Lucina quand, élevant les yeux au ciel, elle demandait au Tout-Puissant de lui donner la force. Elle se sentait appelée à faire en ce moment le généreux sacrifice de tout ce qu'elle avait de chair en ce monde. Ce jour d'une offrande si longtemps désirée, longtemps attendue, s'était levé et son cœur maternel se brisait à la pensée de ce qu'elle allait souffrir. Que se passa-t-il dans l'âme de l'enfant qui restait silencieux et comme absorbé dans ses pensées? Dieu soulevait-il pour lui le voile de l'avenir? Ses hautes destinées lui apparaissaient-elles? Voyait-il en vision la superbe basilique élevée en son nom et visitée depuis 16 siècles par les pèlerins et les antiquaires, et ce nom donné également à une des portes de Rome? Il ne prévoyait pas que, sur les bords lointains de la Tamise, une autre église serait placée sous son invocation, que cette église même, après avoir été profanée au temps de la Réforme, deviendrait le lieu de sépulture de tout ce qui resterait fidèle à sa Rome bien-aimée. L'enfant ne pensait pas qu'un ciborium d'argent pesant 287 livres serait placé par le pape Honorius Ier sur l'urne de porphyre qui renfermait ses cendres précieuses. Il ne voyait pas son nom inscrit sur le martyrologe de toutes les églises, son image surmontée d'une auréole, honorée sur de nombreux autels, comme celle de l'adolescent martyr de la primitive église. Il avait agi dans la simplicité de son cœur chrétien et se sentait heureux d'avoir pu ce jour-là montrer son obéissance en esprit et en vérité au Dieu de l'Évangile. Il remplissait son devoir en remportant une victoire sur lui-même, et l'amour-propre ou la vanité qui lui aurait ôté son véritable caractère d'héroïsme n'était pour rien dans ses réflexions. Quand il leva les yeux après cette douce et calme rêverie, la lumière qui était répandue dans la salle éclairait le visage de sa mère, qui regardait son fils avec une tendresse mêlée d'une telle majesté que l'enfant en demeura surpris. Sa figure était illuminée d'une inspiration presque divine, ses yeux semblaient ceux d'un ange. Silencieux et presque sans se rendre compte de son action, il s'agenouilla devant elle. Ne pouvait-il pas s'incliner ainsi devant celle qui était son ange gardien, qui l'avait protégé de tout mal et dont les vertus avaient été l'exemple de sa vie ? Lucina rompit le silence et dit d'une voix qu'une vive émotion rendait vibrante « Le jour est enfin venu, mon bien-aimé fils, jour que dans mes prières je demandais au ciel. J'épiais en vous les germes des vertus chrétiennes et j'ai remercié Dieu quand j'ai remarqué votre docilité, votre douceur, votre piété, votre amour du travail et, plus encore, votre grand amour pour Dieu et pour les hommes, vos frères. » J'ai vu avec joie s'éveiller en vous une foi vive, une profonde indifférence pour les biens de ce monde et une grande tendresse pour les pauvres. Mais j'attendais toujours l'heure décisive qui me montrerait si vous vous contenteriez de l'humble vertu de votre mère ou si, portant plus haut vos regards, vous seriez le digne héritier de votre père, le martyr. Cette heure est venue aujourd'hui et j'en bénis le ciel. Qu'ai-je donc fait qui ait pu vous faire concevoir de moi une si haute opinion ? Demanda Pancratius. Écoutez-moi, mon fils, ce jour est le dernier de votre vie d'écolier, et je remercie Dieu qui vous a donné la meilleure des leçons. Vous avez quitté tout ce qui vous rattachait à l'enfance. Vous êtes maintenant un homme, car vous pouvez penser, parler et agir en homme. Comment devinez-vous cela, mère bien-aimée ? Ce que vous m'avez raconté de votre discours de ce matin me prouve que votre cœur est plein de nobles et généreuses pensées. Vous êtes trop sincère, trop honnête, mon fils, pour avoir écrit que c'est un glorieux devoir de mourir pour la foi si vous ne l'aviez pas cru et pensé. Et je le crois et je le pense vraiment, interrompit l'enfant. Quel plus grand bonheur un chrétien peut-il souhaiter sur la terre ? Oui, mon fils, ce que vous dites est vrai. Continua Lucina. Mais je ne me serais pas contentée de mots. Ce qui arriva ensuite m'a prouvé que vous étiez capable de supporter patiemment et avec intrépidité non seulement une simple peine, mais une grande humiliation. Un coup a frappé votre face patricienne et le sang de vos glorieux aïeux a dû bouillonner dans vos veines quand cette lâche multitude applaudissait aux grossièretés de celui qui vous insultait. Vous avez fait encore plus en vous montrant assez fort pour pardonner à vos ennemis, en priant Dieu de les bénir. Vous avez atteint aujourd'hui le sommet de la Sainte Montagne en portant la croix sur vos épaules. Encore un pas et vous la planterez sur le sommet élevé. Vous vous êtes montré le digne fils du martyr Quintinus. Ne désirez-vous pas devenir semblable à lui ? Mère, très douce mère, s'écria le jeune homme en tressaillant. Puis-je être son vrai fils sans désirer lui ressembler ? Je n'ai pas eu le bonheur de le connaître, mais son image n'est-elle pas toujours présente à mon esprit ? N'est-il pas l'orgueil de mes pensées ? Quand chaque année revient l'anniversaire de son glorieux martyr et qu'on le fête comme un de ceux qui entourent le trône de l'agneau et dont les vêtements trempés de sang sont devenus blancs comme la neige, mon cœur et mon esprit se réjouissent de sa gloire, et je le prie alors, dans l'ardeur de mon amour filial, de ne demander pour moi ni la renommée, ni la gloire, ni la richesse, ni les joies de la terre, mais un seul bonheur qui, pour moi, vaut plus que toutes ces jouissances réunies. Je lui demande que la seule chose qu'il a laissée sur la terre soit employée de la manière qu'il juge la plus noble et la plus utile, je le sais. « De quoi voulez-vous parler, mon fils ?»« Du sang de mon père, qui ne coule plus que dans mes veines. Du haut du ciel, il désire que ce sang soit versé tout entier pour l'amour de notre Rédempteur et le témoignage de sa foi. »« Assez, assez, mon enfant !» s'écria la mère, animée d'une sainte émotion. « Retirez de votre cou cet ornement qui appartient à l'enfance. J'ai un don autrement précieux à vous faire. » Il obéit et ôta sa boule d'or. « Votre père vous a légué un noble nom, mon fils, une haute position, des richesses, tous les avantages de ce monde, » continua la mère d'une voix plus grave et plus émue. « Mais dans son héritage, il est un trésor que j'ai réservé jusqu'à ce que vous vous soyez rendu digne de le posséder. Jusqu'à présent, je vous l'ai caché, quoique sa valeur surpasse celle de l'or et des joyaux les plus rares. » Le temps est venu, je dois vous le transmettre. » Ses mains tremblantes soulevèrent alors la chaîne d'or qui pendait sur sa poitrine. Pour la première fois, son fils vit que cette chaîne soutenait un petit sac richement brodé et orné de pierreries. Elle l'ouvrit et en tira une éponge profondément imbibée de sang que les années avaient séchée. « Voici aussi le sang de votre père, ô mon enfant » dit-elle avec des sanglots dans la voix et des larmes dans les yeux. « Je l'ai recueilli moi-même, jaillissant de sa blessure mortelle, quand, déguisé sous des vêtements étrangers, je pénétrai jusqu'à lui et je le vis mourir pour le nom du Christ. » Elle regarda la relique avec amour, la baisa avec ferveur. Une larme se détacha de ses yeux et vint tomber sur l'éponge bénie. Alors le sang se liquéfia, sa couleur redevint éclatante et sembla tiède encore, comme si, à l'instant même, il s'échappait du cœur du martyr. La sainte matrone porta le médaillon jusqu'aux lèvres frémissantes de l'enfant, qui s'empourprèrent aussitôt à ce contact sacré. Il vénéra ce sang précieux avec la double émotion d'un chrétien et d'un fils. Il lui semblait que l'esprit de son père descendait sur lui et remplissait les profondeurs de son cœur, afin que tout ce que ce cœur contenait de sang fût toujours prêt à couler pour la foi. La famille entière était une fois encore réunie. Lucina remit le trésor dans son écrin et le suspendit au cou de son fils en lui disant « Quand ce sang redeviendra humide, que ce soit sous une rosée plus noble que celle qui coule des yeux d'une faible femme. » Mais le ciel en jugeait autrement, et le futur combattant se trouva oint, le futur martyr fut consacré par le sang de son père, mêlé aux larmes de sa mère.